Article 23.
Chacun a le droit
de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Ce droit comprend notamment
le droit à un logement décent.
Tout le monde y a droit, pourtant trouver un toit à Bruxelles est loin d'être une sinécure. Les loyers augmentent toujours plus et les revenus, quant à eux, sont à la traîne. Résultat, un Bruxellois sur deux se trouve dans les conditions d'accès à un logement social. Et l'offre en la matière reste insuffisante malgré les initiatives des autorités publiques. Face à cette pénurie de logements et à la précarité grandissante, certains citoyens ont trouvé leur propre réponse. Occuper des bâtiments laissés vides, squatter ces endroits, parfois avec l'accord du propriétaire.
Un exemple particulier du phénomène des squats est le cas du 123 rue Royale. Particulier pourquoi ? Eh bien parce que pour la première fois, les squatteurs ont reçu l'accord d'une autorité publique pour occuper le bâtiment. En effet, la région wallonne a passé un contrat d'occupation temporaire avec les habitants du 123. Il ne s'agit donc pas de squatter purement et simplement un bâtiment vide. Un véritable projet est mis sur pied par les habitants du lieu et les associations qui les encadrent. Un projet culturel et social, mais aussi un projet à vocation politique, censé ouvrir les yeux et amorcer concrètement le débat sur la pauvreté. Nathalie Delalleu, responsable communication de l'ASBL Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat.
Là, la responsabilité politique, pour moi, elle est établie, parce qu'avec le peu de moyens dont on dispose, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, et on ne le fait pas. Donc je trouve qu'à un moment, il faut en tirer les conclusions. Au niveau politique, on n'agit pas, donc ça veut dire que la pauvreté n'est pas une priorité. Or, elle fragilise tout le monde.
Mélanie, occupante du 123 rue Royale.
Enfin, moi, je vois bien seule avec deux enfants, quand t'as payé ton loyer, ton gaz, ton électricité, qu'il te reste 120 euros pour encore acheter ce qu'il faut pour les enfants. C'est pas possible à vivre.
Il est clair que le sujet mérite qu'on s'y attarde et qu'une action concrète s'impose. Mais la réhabilitation du 123 en lieu d'occupation soulève des enjeux de nature complètement différente. Un enjeu territorial pour commencer. Jusqu'ici, la partie se jouait entre la région wallonne, les habitants du 123 et les associations qui les encadrent. Mais un participant incontournable avait été oublié, la ville de Bruxelles. Car le bâtiment appartient à la région wallonne, certes, mais se trouve sur la commune de Bruxelles-Capitale et à la ville, on ne lui a pas vraiment demandé son avis. Hamza Fassifiri, échevin de l'état civil.
Le problème qu'on a eu avec le 123 et qui, moi, me dérange, c'est que c'est un propriétaire public qui a pris la décision de faire cette convention d'occupation sans concerter avec le pouvoir local, alors qu'il y avait des impacts locaux sur l'autorité locale. Donc ils auraient pu négocier avec la ville, ça aurait été sympa. Mais surtout, il l'a fait pour de mauvaises raisons. On le sait. C'est par écrit, on le sait. La région wallonne a signé cette convention parce qu'elle pensait qu'en le faisant, elle n'allait pas payer la taxe sur les immeubles abandonnés.
Le talon d'Achille de cette affaire serait donc avant tout d'ordre économique. À la ville de Bruxelles, en tout cas, il est aussi question d'argent. Tout d'abord, de l'argent réclamé par les habitants du 123 qui souhaitent se domicilier et recevoir le CPAS. Mais surtout, de l'argent qu'il va falloir trouver pour répondre à leurs demandes. Une monnaie sonnante et trébuchante qui pourrait bien venir de notre portefeuille puisque les fonds du CPAS ne sont pas inépuisables. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que la ville et son CPAS feignent d'être paralysés. Cela fait maintenant plus d'un an que les habitants réclament le minimum vital, une domiciliation suivie d'un revenu d'intégration minimal et que rien ne bouge. En cause, l'interprétation du contrat entre la région wallonne et les occupants du 123. Le projet d'habitat communautaire serait une couverture. Le 123 serait en réalité une sorte de sas de la pauvreté. On y inscrirait les gens pour qu'ils aient droit au CPAS, puis d'autres prendraient leur place, et ainsi de suite. La ville et le CPAS refusent tout net de contribuer à cette fraude sociale qui coûterait beaucoup d'argent. Nathalie Delalleu.
Donc cette peur, elle ne nous paraît pas du tout justifiée. En même temps, nous, ce qu'on constate sur le terrain, et ce qui nous laisse un petit peu... On est très étonnés, c'est un peu cette tendance qu'on a l'air de sentir dans le discours notamment d'Yvon Mayer, de se dire qu'il n'y a que le CPAS qui peut gérer le problème des gens qui ont aujourd'hui des problèmes de grande pauvreté. Je ne vois pas où est le projet d'émancipation d'un CPS qui est débordé et qui offre en fait un service financier et un vague accompagnement parce qu'il y a trop de dossiers face à un projet de vie comme le 123.
La ville bloque les domiciliations pour plusieurs autres raisons. Elle veut attirer l'attention sur sa position inconfortable, prise en étau entre les normes législatives fédérales qui l'obligent à inscrire des gens au CPAS et les normes régionales bruxelloises qui l'en empêchent, car il ne s'agit pas d'un véritable logement, mais de bureaux. Pour les chouins de l'état civil, il s'agit avant tout de provoquer un débat politique. En attendant le débat, les gens attendent dans une situation instable et n'ont aucun moyen d'émancipation à leur disposition.
Est-ce qu'on s'attaque aux gens ou est-ce qu'on s'attaque aux problèmes ? Est-ce qu'on s'attaque aux personnes qui trouvent des solutions alternatives pour survivre ou est-ce qu'on veut s'attaquer à la problématique qui met les gens en situation d'exclusion ?
Une autre raison évoquée par la ville de Bruxelles pour refuser les domiciliations est l'application du règlement urbanistique. Le bâtiment du 123 est un immeuble de bureaux et ne peut changer de nature. Légalement, l'argument porte, mais humainement, il interpelle. Que fait la ville du 1 500 000 mètres carrés de bureaux vides qui gangrènent Bruxelles ? Et comment en est-on arrivé à cette situation kafkaïenne ? La responsabilité politique est d'abord établie en amont, avec la construction hystérique de bureaux dans les années 70. Nathalie Delalleu.
Aujourd'hui, la politique de la région bruxelloise, ça a été pendant des années de construire encore plus de bureaux, sous prétexte qu'on avait les institutions européennes, qu'on allait attirer la grande finance internationale, qu'on allait attirer les grandes entreprises internationales. On s'est rendu compte que dans des projets de développement, comme par exemple la gare du Midi à Bruxelles, les bureaux sont restés vides. On a construit des bureaux à la place du logement. Et ces bureaux sont restés vides, ou quasiment vides, ou ont été loués par des sociétés belges, y compris des sociétés publiques, et pas des sociétés privées, et pas les institutions européennes, etc.
C'était au temps où Bruxelles rêvait. Hormis les bureaux à proprement parler, on dénombre pas mal de bâtiments laissés à l'abandon par des propriétaires laxistes ou peu scrupuleux. Ces derniers œuvrent sinistrement à la bruxellisation de certains quartiers en rachetant des complexes immobiliers qu'ils délaissent, rasent et reconstruisent. Il n'existe pas encore de recensement exhaustif, mais l'intercommunale bruxelloise de distribution d'eau avance le chiffre de 13 000 logements vides. Face à la précarité grandissante, les citoyens ont vite pris le parti d'occuper ces bâtiments inhabités. C'est ainsi que le mouvement squat est né, du constat alarmant que des gens peuplent les rues alors qu'autant de bâtiments sont inutilisés. Thomas Dawans, président de l'ASBL Woningen 123 Logements.
Mais dans les tendances un peu récentes, moi je vois, il y a un peu la tendance définir une alternative politique. Et ça en général, ce sont plutôt les anarchistes, voire les punks, dans une logique peut-être plus autodestructrice. Et les frontières ne sont pas toujours claires. Tu as les squats plus artistiques. À Paris, par exemple, ça a donné des phénomènes comme les squarts. Quoi. C'est un concept qui est l'évolution de cette tendance-là. Et donc, ils sont reconnus comme incubateurs culturels et tout, ce qu'ils sont. Mais je veux dire, en même temps, ça veut dire que ça les met à l'écart de la lutte sociale. Et puis, il y a donc plutôt des mouvements d'occupation qui, eux, s'inscrivent dans une méthode sociale, c'est-à-dire de voir comment on peut tenter d'utiliser cette méthode-là pour simplement accueillir des gens sans nécessairement définir une alternative, mais pour pouvoir résoudre, pour certains en tout cas, la crise du logement. Et donc là, c'est plutôt des squats sociaux.
Ainsi, les squats sont devenus la réponse de l'homme de la rue face à une crise du logement qui s'éternise et s'aggrave avec le temps. Un Bruxellois sur deux est dans les conditions pour obtenir un logement social, mais 8% du parc locatif public est consacré à pareil logement. 26 000 personnes végètent sur les listes d'attente pour quelques logements sociaux disponibles. Madame Dupuis, secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme, a lancé son plan 5 000 logements sociaux pendant cette législature. Mais à l'aune des nouvelles élections, force est de constater l'inaboutissement généralisé de son projet.
Les 5 000 logements, c'est un échec. Il ne faut pas commencer à tourner autour du pot. C'est un échec. Voilà, dommage, Madame Dupuis, vous avez essayé, ça n'a pas marché.
En cause, des négociations maladroites et précipitées qui ont sabordé le plan, provoquant son ralentissement inévitable, voire son avortement. Cela dit, l'aboutissement du plan n'aurait pas spécialement changé grand-chose si l'on en croit José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires et administrateur de la société du logement de la région de Bruxelles-Capitale.
Même si le plan avait réussi, on serait nulle part. Quand on s'engage à construire 5000 logements, si on ne les fait pas, c'est vrai qu'il y a un gros problème, mais le problème n'est pas là. On ne résoudra la problématique du logement que si on s'attaque au gros du problème. Et le gros du problème, c'est quoi ? C'est que les loyers sont trop chers.
Il propose dès lors une solution en trois temps. 1. Bloquer les loyers. 2. Les fixer selon des critères objectifs. Et 3. Octroyer une allocation locative aux personnes qui sont dans le besoin. Cette dernière mesure est aussi une revendication du CDH.
Il faut dire aux gens, tu habites un logement privé, tu as droit au logement social, eh bien, en attendant d'avoir un vrai logement social, et c'est la faute au public s'il n'y en a pas assez, on va faire comme si tu restes là où tu es, mais tu payes déjà le tarif social. Et la différence avec le tarif privé, eh bien, c'est le pouvoir public qui le prend en charge.
Restent les mètres carrés inoccupés et la responsabilité politique en aval. Il y a bien eu dans les années 90 la loi Onkeling sur la gestion de ces bâtiments, mais cette dernière est restée lettre morte auprès des administrations communales qui ont vite fait de la juger inapplicable. Les communes se sont tout de même pourvues de la taxe communale sur les bâtiments ou les terrains abandonnés ou non entretenus. Seule la commune de Watermael-Boisfort fait encore exception aujourd'hui. Enfin, une certaine tendance semble se dégager qui obligerait les promoteurs immobiliers à construire du logement en plus des bureaux initialement projetés.
Pour les acteurs sociaux, la concrétisation de telles mesures doit être pérenne. Ils dénoncent une politique du goutte-à-goutte et de l'urgence qui ressurgit à chaque hiver pour laver les consciences. Anna Skovici, co-directrice de la Strada.
Candidats réfugiés ou pas, à la veille de l'hiver, tous ceux qui ont été largement indifférents à la situation des sans-abri s'émeuvent parce que voilà, ça fait mauvais dans le décor du repas de Noël.
La Strada est la nouvelle cellule de soutien au secteur d'aide aux sans-abri. L'organe nouvelé de la Commission communautaire commune a pour mission de coordonner les différents pouvoirs en charge du logement à Bruxelles. Et la structure à peine éclose a du pain sur la planche, tant le marasme politique règne dans le secteur. Trop de pouvoirs interviennent en la matière et il n'est pas toujours aisé de construire un semblant d'homogénéité ambiante. Ainsi, sont compétents d'une manière ou d'une autre la commune, la région, la commission communautaire commune et le pouvoir fédéral.
Force est de constater qu'une véritable désorganisation règne en matière de logement à Bruxelles. La nécessité d'une action et d'une concertation commune s'impose et s'installe progressivement, avec par exemple la création de la Strada. Mais de gros efforts restent encore à faire.
Ne plus attendre d'appliquer des solutions d'urgence et ouvrir, réhabiliter des espaces publics pourrait être une solution pour éviter que les personnes précarisées et de plus en plus nombreuses se retrouvent à la rue à devoir bricoler des abris de fortune ou squatter des bâtiments vides.
Travailler main dans la main avec les associations qui œuvrent sur le terrain pourrait être une manière de répondre plus efficacement à la paupérisation des citoyens.
Dans le cas du 123, l'appel a finalement été entendu par les autorités publiques bruxelloises. Les habitants peuvent se domicilier et auront droit au CPAS à un taux spécifique, moyennant garantie par les ASBL qui les encadrent.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends ma dérive. Paris, je te laisserai.